Europe Matin,
le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 7h.
I want you to know that the movement we started is only just beginning.
Le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer. Donald Trump s'en va en se félicitant du travail accompli. Et Joe Biden arrive. Cérémonie d'investiture à midi, heure locale. L'ancien et le futur président ne se croiseront même pas. Nous retrouverons l'un de nos envoyés spéciaux, Alexis Guillot, en direct de Washington pour nous raconter cette journée historique. Dans ce journal, les premiers chiffres sur les effets secondaires du vaccin. Aucune inquiétude à avoir selon les autorités sanitaires. Une situation à haut risque en ce coup d'envoi des soldes, mais aussi des inscriptions sur Parcoursup pour les élèves de terminale et puis un improbable best-seller mondial qui vient d'être publié en France. On y découvre les mystères d'un poisson insaisissable, l'anguille.
Juste après ce journal, les États-Unis toujours, avec Nicolas Barré, l'éclairage éco et le regard international de Vincent Hervouette. Hommage, portrait, Alice Milia, elle a fait entrer les femmes, la femme aux Jeux Olympiques. Ça c'est l'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
20 janvier, cette date marque la fin du mandat de Donald Trump à la tête des États-Unis. Journée que nous allons bien sûr vous raconter avec nos envoyés spéciaux. Quelques heures avant de céder la place, Donald Trump a publié une vidéo d'adieu avec, sans le citer, un mot pour l'administration Biden.
Alors que je termine mon mandat en tant que 45e président des États-Unis, je me présente devant vous avec une grande fierté pour ce que nous avons accompli. Nous avons fait ce pourquoi nous sommes venus ici, et bien plus encore. Cette semaine, nous inaugurons une nouvelle administration. Nous prions pour qu'elle réussisse à maintenir la sécurité et la prospérité de l'Amérique. Nous leur adressons nos meilleurs vœux. Nous voulons aussi qu'ils aient de la chance.
Et c'est au moment où Donald Trump publiait son message que Joe Biden atterrissait près de Washington. Il venait de son fief de Wilmington, dans le Delaware.
Oui, son état de naissance si cher à son cœur, et c'est la gorge nouée, des larmes coulant sur son visage, qu'il a dit au revoir à tous ceux qui l'ont toujours soutenu.
Vous savez, c'est émouvant pour moi. C'est profondément personnel que notre nouveau voyage vers Washington commence ici. Je sais que l'époque est sombre, mais il y a toujours de la lumière, c'est ce que vous m'avez appris. Et nous voilà ici, aujourd'hui, ma famille et moi, sur le point de retourner à Washington pour retrouver une femme noire aux origines asiatiques, pour prêter serment en tant que président et vice-présidente des États-Unis. Je suis vraiment honoré d'être votre prochain président et commandant en chef, et je serai toujours un fier enfant de l'État du Delaware.
Joe Biden a ensuite rejoint la capitale où il a rendu hommage aux 400 000 victimes du Covid, geste marquant surtout quand on se souvient que Donald Trump a toujours voulu minimiser la pandémie.
Joe Biden s'apprête donc à devenir le 46e président des États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Washington. La cérémonie d'investiture n'aura vraiment rien à voir avec les précédentes?
Non, à cause des menaces sécuritaires et sanitaires, mais Joe Biden tenait absolument à une cérémonie en extérieur. C'est donc bien devant le Capitole qu'il prêtera serment, tout comme Kamala Harris. Alors le dispositif a été adapté. Déjà pour respecter toutes ces consignes sanitaires, les invités seront espacés les uns des autres avec plusieurs mètres entre chaque chaise. Mais ce qui va vraiment changer, c'est qu'il n'y aura pas de public, pas de foule sur le National Mall. Joe Biden prononcera son discours d'investiture devant des drapeaux, près de 200 000 petits drapeaux qui ont été plantés en face du Capitole pour représenter les Américains. Habituée des grandes scènes mondiales, la chanteuse Lady Gaga interprétera l'hymne national devant ce chant de bannière étoilée.
Voilà, la voix de Lady Gaga, c'était au Super Bowl en 2016. Alexis Guilleux, on continue à dérouler cette journée. Joe Biden et Kamala Harris, sa vice-présidente, vont ensuite passer les troupes en revue.
Oui, c'est ce moment qui symbolise la transition pacifique du pouvoir et l'arrivée du nouveau commandant en chef aux États-Unis. Joe Biden et Kamala Harris se rendront ensuite au cimetière militaire d'Arlington, en Virginie, à côté de Washington. À leur côté, trois anciens présidents, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, mais un grand absent, Donald Trump, qui sera déjà parti en Floride. Enfin, le nouveau président et sa vice-présidente seront escortés jusqu'à la Maison-Blanche. Il n'y aura donc pas de parade officielle et populaire sur Pennsylvania Avenue, comme c'est la tradition sur cette avenue qui relie le Capitole et la Maison-Blanche. Pas de rencontre donc entre la population, les électeurs et le nouveau chef de l'État, qui se mettra tout de suite au travail avec la signature des premiers décrets dès la fin de l'après-midi.
Merci Alexis Guilleux, en direct de Washington. On va bien sûr vous retrouver tout au long de cette matinale. C'est donc dans une ville cadenassée que se tiendra cette cérémonie. 25 000 soldats de la garde nationale, des milliers de policiers venus de tout le pays. Président, pendant encore quelques heures, Donald Trump quittera la Maison Blanche tout à l'heure à 8h, 14h à Paris, direction la Floride, où il va rejoindre son club de Mar-a-Lago. Et juste avant de quitter le pouvoir, il a décidé de gracier son ex-conseiller Steve Bannon, inculpé dans une affaire de détournement de fonds. L'information vient tout juste d'être confirmée par la Maison Blanche.
7h05 sur Europe 1. Les États-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé, en valeur absolue, hein, avec 400 000 morts. Mais proportionnellement, d'autres sont encore plus touchés par la pandémie. L'Italie, le Royaume-Uni ou la Belgique.
Et l'Allemagne décide de son côté de durcir ses restrictions et de les prolonger jusqu'à la mi-février. En France, où se tient un nouveau conseil de défense sanitaire tout à l'heure, on a désormais les chiffres des effets secondaires du vaccin. Le gouvernement tient ainsi sa promesse de transparence. Résultat, Anne Le Gall, 139 cas d'effets indésirables et 5 décès. Mais vous nous dites qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Alors, sur ces 139 effets indésirables, on compte une vingtaine de cas graves qui ont été correctement pris en charge, et à cela s'ajoutent 5 décès pour lesquels l'Agence nationale du médicament précise que rien ne permet d'établir un lien de cause à effet avec la vaccination. Ces décès sont tous survenus chez des personnes âgées qui vivaient en EHPAD, qui souffraient de pathologies chroniques et suivaient des traitements lourds. Et la NSM rappelle qu'il y a statistiquement 465 décès et 1000 hospitalisations qui surviennent dans des établissements pour personnes âgées chaque jour, en dehors du contexte d'épidémie de Covid. Alors bien sûr, ces décès survenus après injection feront l'objet de recherches plus poussées, mais à ce stade, selon l'Agence du médicament, il n'y a pas de signal de sécurité inquiétant.
Merci Anne Le Gall, et c'est dans ce contexte sanitaire pour le moins compliqué que s'ouvrent aujourd'hui les soldes d'hiver.
Alors en réalité, et vous le savez, vous l'avez constaté, ça fait déjà plusieurs semaines que les promos et autres ventes privées proposent des ristournes. Dans l'habillement, en tout cas, Carole Ferry, on n'est pas très optimiste pour la suite.
Mais écoutez, forcément, le couvre-feu à 18h ne rassure pas vraiment les commerçants. Selon la Fédération de l'habillement, par exemple, le créneau 18-20h, c'est 20% du chiffre d'affaires en moyenne. Sans compter qu'avec le télétravail, les clients sont nettement moins à l'affût de nouvelles tenues. Les secteurs de l'ameublement et de l'électroménager, en revanche, espèrent profiter de ce retour forcé à la maison. D'autant que les soldes d'hiver sont traditionnellement une période faste pour le secteur. Mais il reste cet inconnu, les Français vont-ils jouer les cigales ou les fourmis. Globalement, toutefois, l'optimisme est plutôt au rendez-vous dans les grandes villes, selon le président de l'Association des commerces des métropoles de France, Christian Baulme.
Je pense que les clients vont être là. On sent bien, tous les jours, les gens s'adaptent, corrigent leurs horaires. C'est ce qu'on essaye de faire passer comme message à nos clients. Venez le matin, il y a moins de monde, vos commerçants sont ouverts au moins une heure plus tôt, et en tout cas, tout le monde est sur les starting blocks pour les soldes, on est prêt. Hein.
C'est plus compliqué dans les petites villes de moins de 20 000 habitants. Là où les gens vivent, mais travaillent peu. Les clients n'ont plus le temps de s'arrêter en revenant du travail. Mais la véritable inquiétude générale, c'est bien sûr la perspective d'un éventuel troisième confinement.
Et justement, Carole Ferry, cette perspective, elle est sérieusement envisagée par le gouvernement avec l'arrivée du variant anglais. Selon les informations d'Europe 1, ce nouveau confinement, local ou national, pourrait intervenir à la fin janvier. Dossier à suivre dans le journal de 8h. Le variant anglais est désormais présent dans 60 pays, selon l'OMS. Parmi ceux qui se sentent vraiment laissés pour compte dans cette crise, il y a les étudiants qui sont d'ailleurs appelés à descendre dans la rue aujourd'hui à Paris et dans d'autres villes en région. Ils dénoncent notamment l'injustice d'être privés de cours en présentiel, contrairement aux élèves de classe prépa, de BTS ou aux lycéens.
Des lycéens qui sont confrontés à des choix compliqués à partir d'aujourd'hui en terminale, puisque c'est l'ouverture de Parcoursup qui leur permettra de choisir leur orientation.
Oui, dans ce contexte de grande incertitude, à la fois pour le bac et pour les examens d'admission dans les différentes formations, le gouvernement veut tenter de leur donner un peu de visibilité, Virginie Riva.
Oui, durant un mois et demi, les élèves de terminale vont pouvoir prendre contact avec les formations, être informés de leur capacité d'accueil, du taux de réussite dans chaque filière. Mais ils auront aussi une information cruciale, quelles seront les modalités d'examen d'entrée en cas de conditions sanitaires dégradées. Le gouvernement a demandé à chaque école de le mettre en ligne dès aujourd'hui, exemple avec le concours Sésame qui regroupe 14 grandes écoles de commerce. Elles ont décidé qu'il s'agirait d'un examen écrit en distanciel à domicile mi-avril. Même chose pour leurs oraux, pour éviter de déstabiliser les candidats comme l'an dernier. Deuxième incertitude, sur quoi vont être sélectionnés les élèves? Normalement et pour la première année, ils devaient l'être sur leurs notes d'épreuve de spécialité du bac mi-mars, mais rien ne dit à ce stade qu'elles pourront être maintenues. Dans ce contexte, les professeurs principaux sont chargés d'accompagner leurs élèves. Tous équipés d'une version spécifique du logiciel, ils peuvent suivre en temps réel l'état d'avancement des dossiers de leurs élèves et se rendre compte si, d'ici le 11 mars, l'un d'eux n'a pas formulé de vœux sur la plateforme.
Merci Virginie Riva, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1.
Pardonnez-moi, on se souvient de l'énorme succès du livre, succès improbable, hein, du livre Le charme discret de l'intestin. Eh bien, un autre ouvrage pourrait connaître le même engouement.
Oui, ça s'appelle L'évangile des anguilles, écrit par Patrick Svensson, lauréat du prix Auguste, le Goncourt suédois. Ce livre, il est déjà paru dans 30 pays et il vient de sortir en France. Il se penche sur les menaces écologiques qui pèsent sur ce poisson méconnu, l'anguille. Nicolas Carreau l'a lu pour nous.
C'est le premier livre du journaliste suédois Patrick Svensson, 48 ans, premier étonné de son succès. Il s'ouvre dans la mer des Sargasses, où naissent les anguilles, un poisson très mal connu des scientifiques aujourd'hui encore. Anguilla anguilla, c'est le nom savant. On en apprend beaucoup sur sa reproduction, sur sa pêche, d'où elle vient, où elle va. Mais pourquoi un livre sur les anguilles atteint-il les centaines de milliers d'exemplaires dans le monde? Peut-être parce que cet animal reste un mystère, justement. Pierre Demarty, l'éditeur du livre au Seuil.
D'abord, il y a une part de fascination pour cet animal qu'on croit connaître a priori, mais dont on découvre avec ce livre qu'il échappe en fait totalement depuis des siècles et même des millénaires à la connaissance scientifique humaine. Et puis enfin, je crois que c'est un livre qui établit un pont entre les interrogations écologiques qui sont les nôtres aujourd'hui et puis des grandes interrogations métaphysiques sur nos origines et notre destinée.
Patrick Svensson nous raconte à la fois l'histoire des anguilles sur 2000 ans, Aristote pensait qu'elle naissait de la vase, Freud en disséquait par centaines pour percer leur mystère, mais Svensson y mêle aussi des souvenirs de pêche avec son père et réussit à lier l'intime à l'universel avec une écriture fluide et souple comme une anguille.
Voilà, ça donne vraiment envie de s'intéresser aux anguilles. Ça s'appelle L'évangile des anguilles de Patrick Svensson et c'est sorti aux éditions du Seuil.
À l'origine, il n'y avait pas de lien, mais notez bien qu'à 7h24, l'expression du jour décortiquée par Stéphane Bern, c'est l'expression anguille sous roche. On verra s'il y a un lien possible en l'occurrence. Hélène, vous avez entendu hein, la cérémonie, ça va être une fête à Washington dans la foulée de l'investiture. Justin Timberlake, Bruce Springsteen, John Legend, les Foo Fighters, j'ai donné un peu de la liste. J'ai pas cité Demi Lovato, je voulais garder Demi Lovato qui est très connu pour avoir chanté ça. Let it go, let it go. C'était juste pour m'assurer qu'Hélène Zélani, vous l'aviez dans la
merci,
tête,
hein.
La Reine des Neiges.
Alors ça c'est sympa, merci beaucoup.
Entendu studio, c'était le journal de 7h. Il est 7h13, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.